sur le haïku, mais j'aborde un groupe de réflexion qu'on pourrait mettre sous le titre ou sous la notion d'effet, effet au singulier, effet de réel. Si l'on adoptait la distinction, je crois célèbre, de Lacan entre réel et réalité, le réel étant ce qui se démontre, ne se voit pas et se démontre, et la réalité étant ce qui se voit, qui relève d'une évidence et donc d'un leurre, je devrais dire plutôt effet de réalité et non pas effet de réel. Mais je garde cette expression plus banal de réel et d'effet de réel. Donc ce que je voudrais grouper ici, c'est quelques réflexions sur produit un effet de réel. Et quelle est la spécialité de cet effet? On pourrait dire que j'entends par effet de réel lorsque dans un texte, tout d'un coup, on a la sensation que le langage s'évanouit au profit d'une certitude de réalité, comme si le langage, à certains moments, se retournait, s'enfouissait et disparaissait en tant que langage, laissant à nu ce qu'il dit. On pourrait dire à la limite, mais je ne veux pas développer, ce sont des problèmes théoriques, et d'ailleurs je ne suis pas bien armé pour le faire, en ce moment en tout cas, on pourrait dire dans un certain sens que l'effet de réel, c'est-à-dire le moment où le langage semble s'évanouir au profit de ce qu'il dit, pourrait définir ce qu'on peut appeler la lisibilité d'un texte. Quand un texte est lisible, l'extrême lisibilité d'un texte, c'est précisément le moment où le langage semble disparaître. Et donc, ça serait à ce moment-là, la question que je vais vous poser un peu, ce serait quelle est la lisibilité du haïku. Pour le dire, je vais faire un détour, comme il m'arrive souvent. Je vais faire un détour en suivant une sorte de précepte ou de suggestion ou d'idée qui a été formulée par Proust et que je résumerai ainsi entrer dans un art par un autre, se servir d'un art, d'un autre art, pour entrer dans un art. Cette idée a été formulée par Proust dans le Contre Sainte-Beuve, page 262, à propos de Balzac. Proust remarque qu'on dit toujours, et notamment Sainte-Beuve, que Balzac peignait la société de son temps. Eh bien, Proust fait remarquer que, certes, Balzac peignait la société de son temps, mais non pas à la façon d'une copie. Il peignait la société de son temps parce qu'il avait en lui, dit Proust, une idée de belle peinture, ou l'idée d'un bel effet de peinture, ou une grande idée de peinture. Donc Balzac peignait la réalité de son temps, non pas, disons, directement d'après cette réalité, mais d'après une idée qu'il avait dans la tête, de ce que pourrait être une belle peinture de cette réalité. Car, dit Proust, et c'est cela dont je me sers, il concevait souvent un art dans la forme d'un autre, ce qui est très, très simple et très bien. Eh bien, j'ai réfléchi un peu à cette formule, et je me suis dit, c'est une suggestion que je me suis faite, que la forme d'art qui permettrait peut-être de concevoir le haïku, pas concevoir le haïku dans la forme d'un autre art que le haïku, eh bien, je pense que peut-être cette forme d'art serait la photographie. Et là, j'ai risqué une petite digression un peu hasardeuse, peut-être parfois un peu provocante pour ceux qui aiment la photographie, ou plutôt ceux qui aiment le cinéma, parce que ça va tourner autour de ça. Petite digression sur la photographie. La photographie est pleine, enfin comme objet historique et culturel, est pleine de paradoxes que vous connaissez. Le premier, par exemple, on pourrait en énumérer beaucoup, c'est que le monde actuel est plein et saturé de photographies. Il y a des photographies à tous les niveaux de la connaissance, de la vie sociale, publique et privée, de l'information, de la science, depuis les photographies d'atomes jusqu'aux photographies de galaxies, que c'est véritablement un objet multiple, la photographie, et un objet hétéroclite. Ce qui fait que, je dirais que si on se proposait de faire sur la photographie un travail théorique essentiel, qui n'existe pas, je crois, actuellement, on se trouverait probablement dans la même situation, je dirais, existentielle, que Ferdinand de Saussure, dont on ne parle plus, mais qui existe tout de même encore, je puis dire. Ferdinand de Saussure s'est trouvé, lorsqu'il a voulu étudier le langage, et non pas tel ou tel langage, n'est-ce pas, telle ou telle langue, il s'est trouvé devant une situation analogue dans la mesure où il a été en quelque sorte affolé par un objet, à savoir le langage, qu'il ne pouvait pas visiblement maîtriser, tellement les niveaux d'attaque du langage sont différents, et sont multiples et hétéroclites. Et il ne s'en est tiré, il a éprouvé, disons, une sorte de sensation d'affolement et presque d'asphyxie, d'impuissance, et il ne s'en est tiré qu'en décidant qu'il allait étudier le langage d'un seul point de vue, c'est-à-dire en choisissant un point de vue à partir duquel il étudierait le langage. Et ainsi, évidemment, l'hétéroclite de l'objet disparaissait, il y avait une maîtrise de l'objet, une maîtrise possible de la méthode, et ce point de vue auquel il a décidé de se placer, et qui a résolu, disons, son angoisse, vous le savez, c'est le point de vue du sens. Il a décidé d'interroger théoriquement le langage du point de vue du sens, et c'est d'ailleurs cette décision qui a été reconduite ensuite magistralement et tout à fait scientifiquement par la phonologie, puisque face à la phonétique, la phonologie dépend d'une décision de point de vue. On étudie les sons uniquement du point de vue des différences de sens qu'ils produisent. Eh bien, donc, ça serait un peu le même problème pour la photographie. Il faudrait choisir un point de vue, tant c'est un objet hétéroclite, et bien que ce soit un objet universellement présent partout dans notre vie, que nous n'avons pas, je dirais, un seul jour sans photographie, ou presque, peut-être que l'absence de photographie, au niveau d'une journée, définirait très exactement la prison, peut-être. Peut-être est-ce en prison. Peut-être faut-il aller en prison pour avoir un seul jour sans photographie. Et pourtant, vous le savez, il n'y a pas, à ma connaissance, de théorie de la photographie. La photographie, on peut le dire, n'a pas eu son ascension au ciel de la grande culture, de la grande théorie, comme ça a été le cas pour le cinéma et pour la peinture. Le deuxième paradoxe, c'est que la photographie, en général, n'est pas considérée comme un art, puisque la liste des arts s'arrête au cinéma, au septième. Je ne sais pas d'ailleurs quels sont les six autres. Et surtout, je n'ai pas pu trouver dans quel manuel je pourrais trouver ce renseignement. Je ne sais pas. Pardon ? Quelqu'un le sait-il ? Bon. On cherchera, enfin, peut-être vous m'écrirez à ce sujet, pourquoi ça s'appelle le septième art. Donc, la photographie n'est même pas un art au sens noble du terme, et pourtant, vous le savez, il y a des photos d'art qui sont en même temps un déni de l'art et de la photo. Tout ça complique beaucoup les choses. Enfin, troisièmement, et c'est là que je veux en venir, aussi bien pour la photographie que pour le cinéma, il semble que nous n'ayons pu encore définir la spécificité ou la spécialité, car le mot spécialité a le sens de spécificité, la spécialité de l'image photographique, c'est-à-dire l'effet qu'elle possède en propre, différentiellement par rapport à d'autres arts. Autrement dit, en termes de philosophie phénoménologique, on pourrait dire que nous ne pouvons encore, nous n'avons plus encore, me semble-t-il, formuler le noème de la photographie, le noème de la photographie, c'est-à-dire le type spécifique d'apparaître de l'image photographique, ou le mode spécifique d'être atteint par la visée noétique, par l'intentionnalité, pour reprendre un vocabulaire phénoménologique. En effet, ce vocabulaire est phénoménologique, et actuellement, en 79, on est presque acculé toujours à se justifier de recourir à un vocabulaire phénoménologique, tellement cette approche a disparu de la conscience intellectuelle. Mais je dirais que l'interprétation phénoménologique de la photographie me paraît en tout cas encore justifiée, il faudrait la reprendre. Pourquoi ? Parce que pour la phénoménologie, la vision est l'instance décisive de connaissance. La phénoménologie a toujours privilégié la vision. Dans le très beau livre, l'un des premiers, tout premier très beau livre de Sartre, L'Imaginaire, il y a une place très importante accordée à l'image, au sens copique du terme. Donc, il me semble que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas cherché, nous n'avons pas pu formuler le noème de la photographie. Et là, je voudrais vous proposer quelques hypothèses rapides de recherche, en disant que, par exemple, ce noème, probablement, ne peut pas être cherché du côté de la structure perceptive de l'image. Parce que, disons, ce sont les peintres qui ont inventé la photographie. Non pas techniquement, bien sûr, mais phénoménologiquement, puisque la caméra oscura, c'est-à-dire l'appareil photographique, reproduit la géométrie perspective de la Renaissance. Donc, on peut dire, par un raccourci qui en est à peine un, que ce sont les peintres qui ont inventé la photographie. Et on ne peut pas dire non plus que ce qui caractériserait la photographie, ce serait la reproductibilité. Par exemple, en face de la peinture, qui donne un objet unique qui ne peut pas être reproduit sauf procédé mécanique moderne, la photographie pourrait être effectivement caractérisée par le pouvoir d'être reproduit infiniment. Mais on pourrait répondre à cela que le texte, lui aussi, est infiniment reproductible. Il l'est matériellement depuis l'imprimerie, et je dirais, il l'est phénoménologiquement par chaque lecture. On pourrait dire que toute lecture est une reproduction du texte. Enfin, troisièmement, je donne des hypothèses possibles de Noël, dont je rejette chacune. Ce ne peut être non plus ce qu'on appelle le point de vue. Le point de vue, parce que sans doute toute caméra de cinéma et toute caméra de photographie possède des possibilités très riches pour varier le point de vue de la prise de l'image, n'est-ce pas ? C'est-à-dire l'introduction d'une subjectivité dans la capture de l'image. Mais à cela, on pourrait répondre que le point de vue existe aussi dans le texte littéraire. Il y a, par exemple, dans Flaubert, des travelling absolument parfaits, et qui sont véritablement des travelling. On pourrait donc se traduire directement par une application cinématographique. Donc il n'y a pas de pertinence. Ça, c'est d'ailleurs un problème très, très intéressant. J'ai vu le hasard fait hier soir, même si c'est tout récent, et j'ai vu le film d'Éric Rambert, Perceval, le Valois, et c'est un film que j'ai énormément aimé, mais en plus du point de vue, disons, de la réflexion théorique et critique, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que très souvent, Romer filme littéralement les objets qui sont dits dans le texte, n'est-ce pas ? il y a une reproduction de l'objet par l'image, point par point. Donc, à ce moment-là, évidemment, et d'autre part, il y a 15 jours, Pascal Bonnizère, ici, dans l'heure de séminaire, vous a parlé de la caméra subjective, etc. Donc, sur le plan de la pertinence, il serait très difficile d'arriver à atteindre l'OM de la photographie. Alors, mon hypothèse, depuis longtemps formulée en moi, enfin formulée, esquissée, tentée, mais jamais exploitée à fond, et ce que je me propose de faire dans un travail prochain, et j'espère proche, ce serait la suivante, ce serait que le noème de la photographie doit être cherché du côté de ce que j'appelle le « cela a été ». Ça a été, cela a été. C'est-à-dire que toute photographie aurait sa spécificité dans le surgissement, c'est la phénoménologie, du « cela a été ». Et si ce noème est juste, s'il est juste en tant que noème, il est bien évident que le noème de la photographie, que c'est le noème de la photographie, mais que ça n'est pas le noème du cinéma. Et à ce moment-là, il faudrait peut-être constater, mais tout ça est évidemment discutable, que le cinéma reste pour le moment sans noème. Enfin, vous pourrez répondre qu'il ne s'en porte pas plus mal. Mais qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Donc, si vous voulez, juste comparons un petit peu la photographie et le cinéma du point de vue du noème, cela a été. La photographie, bien sûr, on pourra toujours m'opposer des cas d'espèce, des exceptions, mais disons qu'en général, la photographie est très rarement fictionnelle. Elle est rarement, littéralement fictionnelle. Je ne connais, enfin j'ai peu d'expérience des photographes, mais je ne connais actuellement dans mes souvenirs qu'un cas de photographie absolument fictionnel, c'est le travail d'un jeune photographe qui s'appelle Bernard Faucon, et qui a photographié, disons, des mises en scène comme des tableaux vivants ou des enfants mannequins, comme des mannequins vitrines, sont mélangés avec des enfants réels, et le tout formant donc des sortes de tableaux vivants, c'est-à-dire de scènes. Alors là, on peut dire vraiment que la photographie, le référent, est véritablement fictionnel. Mais en général, la photographie reste toujours du côté du « cela a été ». Tandis que le cinéma, au sens global du mot, au sens commercial, disons, c'est plutôt du côté de « ça a l'air d'avoir été » et non pas « ça a été ». La part du « ça a été » dans le cinéma, même s'il y a du « cela a été » dans le cinéma, cela passe par le médium de la photographie. Et je dirais que le cinéma détourne artificiellement le noème de la photographie. Et le « ça a été » du cinéma est littéralement faux. Il est entièrement élaboré, trafiqué, et c'est une sorte de synthèse chimique. Bien sûr, on peut dire qu'aussi en chimie, on reconstitue des corps qui ont été, dans une certaine mesure. Ce serait à peu près le procédé du cinéma. Il m'a été donné récemment de participer de près, enfin de tout près, au tournage d'un film qui n'est pas encore sorti, qui sortira au début du mois d'avril, qui est Les Sœurs Bronté dans Rétéginé. Et ça a été une expérience pour moi absolument passionnante, très fatigante, mais absolument passionnante. Parce que, effectivement, j'ai compris, je savais vaguement, n'est-ce pas, comment tourner un film, mais je ne savais pas réellement. Et là, j'ai vu l'espèce de distance absolument astronomique qui existe entre les opérations de prise de la vue de vue et le résultat final. Qui fait que précisément, ça a l'air d'avoir été, que nous éprouvons quand nous allons dans une salle voir un film, si on se reporte à la façon dont ça a été fabriqué, la distance est absolument vertigineuse. Il faudrait parler de cela beaucoup, je vous signalerai simplement deux grands procédés deux grands trajets qui séparent l'origine du résultat, c'est l'interversion de l'ordre d'enregistrement et de l'ordre de restitution, disons le montage, au sens où il bouleverse tout à fait l'ordre des trucs dessus. Et on peut très bien, avec des prises de vue, non seulement il y a l'ordre des prises de vue qui est différente de l'ordre des scènes dans le scénario, c'est très possible, mais même l'ordre des scènes dans le scénario peut très bien, en dernière minute, être complètement bouleversé, et on peut refaire un autre scénario, finalement, avec les mêmes éléments de scène. C'est la première distorsion. La seconde, c'est la dissociation de l'image et du son, puisque le son est enregistré souvent, enfin pas toujours, mais souvent après coup, il y a post-synchronisation, et à ce moment-là, quand on participe, si peu que ce soit, à un travail de post-synchronisation, on est complètement ahuri par, je dirais, le fait que vous parlez sur l'image qui défile devant vous, et en réalité, sauf peut-être pour les très grands rôles, mais vous n'avez absolument pas besoin de charger l'expressivité ce que vous dites. Car l'image s'en charge. Il suffit que vos paroles coïncident avec les lèvres, ce qui est assuré par une technique qui est bien mise au point maintenant. Donc tout cela pour dire que le « ça a été » dans le cinéma passe par le médium de la photographie, mais que ça ne peut pas constituer le Noël du cinéma. Et cela fait que j'attache personnellement une importance plus grande, peut-être, malgré moi, peut-être aussi, ou provisoirement, je ne sais pas, une importance plus grande à la photographie qu'au cinéma. Je veux dire, importance plus grande par rapport à l'aventure anthropologique. De la photo, peut-être qu'une théorie est possible. Du cinéma, peut-être seulement une culture. Et c'est peut-être ça qui masque les choses, c'est que le cinéma développe et nourrit une culture extrêmement riche, la photographie pas. Et pourtant, peut-être que c'est une théorie de la photographie qui est possible, et pas une théorie du cinéma. Et je dirais que du point de vue d'une anthropologie historique, à mes yeux, le nouveau absolu, la mutation, le seuil, c'est la photographie. C'est la photographie. C'est ce moment du 19e siècle où la photographie est apparue. C'est pourquoi je ne saurais souscrire à la déclaration toute récente de Pierre Legendre, qui est donc deux très beaux livres, dont un est très connu, L'amour du censeur, le psychanalyse. Pierre Legendre, qui dans le dernier numéro des Cahiers du cinéma, dit que pour lui, s'il avait à découper le monde, l'histoire du monde, il dirait il y a avant le cinéma et il y a après le cinéma. Bien, je dirais non, je ne suis pas d'accord, je dirais il y a avant la photographie et après la photographie. Il se peut que le cinéma se dissolve dans une histoire culturelle, se dissolve vers d'autres formes, il est un devenir télévisuel tel qu'on ne pourra presque plus parler de cinéma, tandis que la photographie gardera en quelque sorte son identité noématique et par là même anthropologique. Je dirais que le noème de la photo, c'est d'être toujours une surprise de la conscience. La surprise ou la pensivité due C'est sûr, ça a été. C'est sûr, ça a été. Voilà ce que me dit inflexiblement et en n'importe circonstance la une photographie. C'est sûr, ce que je vois là a été. Et ça pourrait faire penser à ce que précisément les phénoménologues appellent l'Urdoxa, ou UR, n'est-ce pas, en allemand, la doxa, l'opinion, la certitude de base. Alors, pour finir cette digression, ma proposition est que le haïku s'approche au plus près du noème de la photographie, c'est-à-dire du noème « ça a été ». Donc, ma proposition de travail, c'est que le haïku donne l'impression que ce qu'il énonce a eu lieu absolument. Et là, je vous ai donc proposé quelques exemples de haïku qui me donnent, semble-t-il, cette sorte de certitude que cela a été, que c'est dit et que cela a été. C'est le numéro 43, qui est un haïku très célèbre de Bachot. Brise printanière, le batelier marche sa pipette. Bien, il s'agit d'une notation absolument contingente, c'est l'individuation d'un moment, plus, bien sûr, l'action du présent. C'est un présent très fort qui garantit le « ça a eu lieu », paradoxalement. Mais en même temps, de la contingence pure, par le langage, je dirais, s'élève une sorte de transcendance, c'est-à-dire que tout printemps, toute la nostalgie de l'instant, comme en relief, qui ne reviendra plus, est dans ce « ça a été ». Le haïku, je dirais, donne en même temps la vie du fait et son abolition. Et cela me fait penser précisément aux vieilles photos. Je dirais volontiers que l'être de la photo, c'est en rapport avec le Noël que je lui suppose, que l'être de la photo, ce n'est pas la photo rutilante de Paris Match ou de la revue Photo. Ce n'est pas ça, la photo. Je veux dire, ce ne sont pas des photos, presque. La photo, la vraie photo, c'est la photo vieillie. C'est la photo jaunie, c'est la photo vieillie. C'est ça, la vraie photo. Et c'est un peu peut-être ce qu'est le haïku. Le numéro 44, le chaton flaire l'escargot. Eh bien, c'est quelque chose que vraiment nous avons vu peut-être pas une fois, mais tout de même plusieurs fois, l'étonnement d'un petit chat devant un objet qu'il ne connaît pas. Et ici, on retrouve ce même mouvement double, qui est à la fois de reconnaissance d'une chose qui... Le paradoxe, c'est de reconnaître une chose qui a l'air de n'avoir eu lieu qu'une fois. Or, pour reconnaître, il faut une répétition. Et c'est là le paradoxe du signe, c'est-à-dire que le haïku fonctionne à la fois comme un signe, il inclut la reconnaissance d'une répétition, et en même temps, il fonctionne comme une sensation très vive et irrécusable que cela se réfère à telle fois, ce qu'on appelle en histoire le semel factif. Ce qui n'a eu lieu qu'une fois. Donc, le haïku, ce serait un signe, puisqu'il y a de la reconnaissance. Le signe, c'est ce qui peut être reconnu, mais n'oublions pas une définition de Benveniste. Et cependant, ce signe, qui peut être reconnu, est en même temps étonnant. Et peut-être que ce serait la définition de l'écriture, et que l'écriture aurait donc quelque chose de divin. Au sens où il y a une acception évangélique qui vaut signe avec un grand S, pas signum. Disons, nous reviendrons là-dessus, que le haïku fonctionnerait comme une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation de quelque chose de divin en tant que à la fois reconnaissable et pourtant étonnant. Le 45, pas d'autre bruit que la verse d'été dans le soir. C'est le même effet pour moi, c'est-à-dire que c'est reconnu par moi comme ayant eu lieu souvent, mais en même temps, c'est perçu dans ce que j'appellerais la gloire du « ça a eu lieu une fois seulement », c'est-à-dire du « tel », le « tel ». Et je rappelle que dans le vocabulaire théologique, la gloire, enfin, on voit très souvent cela, la gloire de Dieu dans sa gloire, etc. La gloire a un sens extrêmement précis et philosophique dans la théologie. La gloire, c'est la manifestation de l'être. Enfin, c'est pas un décorum, la gloire. C'est la manifestation de la gloire de Dieu, c'est la, quand Dieu manifeste son être. Voilà ce que c'est que la gloire. Eh bien, dans ce Haïku 45, on perçoit l'être-là de cette pluie, c'est-à-dire l'absence de sens ou d'interprétabilité. Autrement dit, le haïku, ce serait peut-être un signe qui n'a pas de sens. C'est en cela, d'ailleurs, qu'il participerait de l'épiphanie du divin. Un signe, mais un signe qui n'a pas de sens. Je dirais qu'il y a le même effet dans un haïku que je n'ai pas transcrit ici, que je vous lis. « Dormant sur le toit, un chat perdu, sous la pluie printanière. » Eh bien, c'est une notation qui peut très bien être branchée, sans que je le sache bien, non pas sur mon inconscient, parce que mon inconscient, ce n'est jamais à moi à en parler, parce que je ne le connais pas, mais sur une sorte de subconscient. C'est la région, non pas du refoulé, mais la région de l'oublier. La région de l'oublier, qui est essentiellement une région proustienne. Alors, tous ces effets de réalité peuvent être, en gros, même s'ils sont des effets de sensation, synesthésiques, tactiles ou sonores, ils pourraient être des effets de photographie. Je dirais que la différence, qui alors peut-être est noématique, parce que le noème du haïku n'est même pas celui de la photographie, entre la photographie et le haïku serait la suivante, c'est que la photographie est obligée de tout dire. C'est toujours une chose qui m'a beaucoup frappé et ahuri presque. Qu'une photographie, d'une certaine mesure, est obligée de tout dire. Par exemple, si la photographie photographiait le bachelier image satisfaite, il pourrait très bien photographier cela, il pourrait même photographier la brise printanière dans une certaine mesure, mais il serait précisément obligé de dire le vêtement du batelier, l'âge, la saleté, et du chaton, la couleur. Il ne pourrait pas ne pas dire cela. Dans la photographie, il ne peut pas y avoir de degré zéro du détail. Et donc, ça fait partie aussi probablement du noème de la photographie, en tout cas par rapport au texte. Enfin, par rapport au texte. Car le texte, c'est ça son pouvoir. Il peut ne rien dire de tout cela. Il dit ce qu'il veut. Lorsque le cinéma photographie un personnage, il ne peut pas ne pas faire que nous connaissions la façon dont ce personnage se coupe les ongles de la main. Tandis que si on nous parle de Hölderlin, il faut que le texte, si on parle de la vie de Hölderlin, il faut que le texte biographique prenne sur lui, assume de dire que dans la période finale de sa folie, il portait des ongles exagérément longs. Hein? Tandis que si nous devions filmer la vie de Hölderlin, eh bien, nous serions absolument obligés de le dire, nous ne pourrions pas choisir de le dire ou de ne pas le dire. Donc, tout cela fait que la photographie provoque des dérives de sens. Puisqu'elle est obligée de fournir une quantité très grande de détails, elle ne peut pas ne pas le faire, elle provoque des dérives de sens. Tandis que le haïku peut a à sa disposition un effet absolument abstrait et cependant très vivant. Alors là, on quitterait le noème de la photographie pour rejoindre le noème du texte. Il n'est pas dit d'ailleurs, je n'ai pas pris de décision à ce sujet, puisque je ne dois remettre à l'administration les sujets de cours de l'année suivante que vers le mois de mai. Donc je ne sais pas très bien de quoi sera fait le cours et le séminaire de l'année prochaine, mais parmi les projets de séminaire que j'ai, il y aurait celui-ci précisément de comparer, pas moi seul, mais avec d'autres, ce que j'appellerais les traits distinctifs du texte, du cinéma et de la photographie. C'est un sujet possible de séminaire. Et on chercherait le noème de chacune de ces expressions. Alors, cependant, bien sûr, à mon sens, la proximité de la photographie et du haïku reste très grande. Certes, la photo est pleine et saturée de détails inévitables, et pas le haïku. Mais je dirais que dans l'une et l'autre, dans la photo et le haïku, tout est donné tout de suite. Le haïku ne peut pas se développer au sens de s'augmenter. Et je dirais que la photographie non plus, sans jeu de mots, puisqu'on dit qu'on développe une photographie. Mais ça n'a absolument pas le même sens. C'est pas développer une photographie, c'est développer du négatif au positif. Mais vous ne pouvez pas augmenter, développer au sens rhétorique une photographie. Vous ne pouvez pas la continuer. Vous ne pouvez pas continuer une photographie. C'est-à-dire que votre regard peut, sur la photographie, insister, il peut se répéter, il peut recommencer. Peut-être il faudrait interroger les habitudes des uns et des autres devant les images, enfin devant l'iconique, disons. Comment est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que ça veut dire que regarder longtemps? Personnellement, j'en suis incapable. Je ne sais pas regarder une image longtemps. Je peux revenir sur une image, mais je ne peux pas la regarder longtemps. Elle ne m'apportera rien de plus si je la regarde longtemps. Et donc, il y a là, bien sûr, quelque chose de très important à décrire, puisque c'est toute la pratique que nous devons avoir, par exemple, des musées. Personnellement, je ne peux pas. Donc, il me semble que c'est ça ce qui se passe devant la photographie et aussi devant le haïku. Le regard peut insister, se répéter, recommencer, mais il ne peut pas travailler. Le regard ou l'écoute du haïku, ça ne peut pas travailler. Bien sûr, il y a des cas limites où, par exemple, on part d'une photo, partir au sens presque que ça peut avoir dans le vocabulaire de la drogue, n'est-ce pas? On peut partir d'une photo pour fabuler, rêver, s'intérioriser, hein? Mais tout de même, je dirais que la photo et le haïku, on ne peut pas travailler véritablement à même l'image. Alors que probablement, c'est un peu différent, il faudrait chercher, réfléchir, pour la peinture, où le regard travaille à même l'image, et elle ne travaille pas dans le rêve. Peut-être que dans la peinture exclurait peut-être le rêve, c'est-à-dire la rêverie, la rêverie. Donc, le haïku et la photo, ça fait partie un peu de leur noème, on pourrait appeler des autorités pures, c'est-à-dire des images ou des productions verbales qui n'ont à s'autoriser de rien, qui n'ont aucune instance, qui n'ont pas besoin d'aucune instance, sauf de celle-ci, cela a été. Et peut-être que ce pouvoir vient de la forme brève. Et on pourrait, peut-être ce serait une hypothèse, de considérer la photographie comme une forme brève. Par opposition au cinéma, qui en aucun cas n'est une forme brève, et qui d'ailleurs donne, pour celui qui aime la forme brève, le cinéma peut donner des envies d'ellipse. Des envies de lutte. Alors, le « ça a été » de la photographie et du haïku peut être interrogé sous une autre pertinence, que je veux dire maintenant, qui est celle de là, mais qui est toujours sous le regard, si je puis dire, du Noème, ça a été, qui est la pertinence de la catégorie temporelle dont il relève, philosophiquement bien sûr, pas linguistiquement. Et justement, il faut dire catégorie temporelle et non pas temps au sens grammatical, parce qu'il ne s'agit pas de marque morphologique. Hein. Une forme de verbe au présent peut très bien renvoyer à un passé effectif, comme par exemple ce qu'on appelle le présent historique. Alors, je voulais rappeler ici, parce que je crois que ça peut vous intéresser, rappeler avec Benveniste, dans les problèmes de linguistique générale, premier tome, page 239, que l'expression temporelle du passé, en général, dans les langues indo-européennes, a à sa disposition quatre formes, quatre temps. Premièrement, l'aoriste, que, en grec par exemple, n'est-ce pas, que nous traduisons, tant bien que mal, nous traduisions autrefois en français par le passé simple, le passé défini, n'est-ce pas, il a là, par exemple. Deuxièmement, le parfait, que nous traduisions par le passé défini, il est allé. Troisièmement, l'imparfait, et quatrièmement, le plus que parfait. Alors évidemment, ce qui est intéressant, du point de vue, disons, d'une sorte de philosophie du temps, c'est la différence entre l'aoriste et le parfait. Et Benveniste a écrit là-dessus des pages très belles et très convaincantes, où il montre que l'aoriste est le temps du récit historique, tandis que le parfait, disons, est le temps du discours. En effet, l'aoriste sert à pointer l'événement hors de la personne d'un narrateur. Enfin, il absente le narrateur, l'aoriste. Et donc, c'est la forme typique de l'histoire, du récit historique, forme qui a disparu, vous le savez, du discours parlé. Et à l'aoriste s'oppose le parfait, qui établit un lien vivant entre l'événement passé et le présent où son évocation trouve place. Le parfait qui est donc le temps de celui qui relate les faits en témoin, en participant, et qui est le temps choisi par quiconque veut faire retentir jusqu'à nous l'événement rapporté et le rattacher à notre présent. Ce qui fait que, par exemple, le recours à un texte qui est écrit avec des temps de verbe au parfait et à la première personne, j'ai lu, j'ai écrit, je suis allé, etc., c'est montre que le parfait, c'est vraiment le temps autobiographique par excellence. Je me rappelle que le premier texte que j'ai fait, maintenant, n'est-ce pas, c'était sur l'étranger de Camus, et j'avais justement été très sensible à, disons, la nouveauté, je dirais, existentielle qu'il y avait à construire tout un récit, comme l'avait fait Camus, au parfait, et non pas au passé simple, au parfait et non pas à un aoriste. Le parfait, en effet, dit que le repère du temps et le moment de l'énonciation, tandis que l'aoriste dit que le repère est le moment de l'événement. Dans le parfait, le repère implicite, c'est le moment où je parle. Dans l'aoriste, le repère implicite, c'est le moment où ça a eu lieu. Alors, bien entendu, il est logique que le « ça a été » du haïku, même si, très souvent, le haïku est écrit au présent, le batelier mâche sa pipette, ou écrit dans les traductions sans verbe, il y a des haïkus, enfin, dans les traductions, il n'y a pas de verbe. Lune éblouissante, deux ou trois nuages, il n'y a pas de verbe. Et malgré ces cas d'absence de marque ou de fausse marque temporelle, il est évident que tout haïku renvoie au passé. Mais ce passé n'est pas celui de l'aoriste, le « ce fut », mais bien entendu le parfait. Enfin, le temps implicite du haïku, c'est le parfait. C'est le temps de l'évocation du lien affectif entre ce qui a eu lieu et ce que je suis en me remémorant. Naturellement, dans les traductions, cela n'exclut pas les effets stylistiques et par recours au passé simple. Donc, le temps du haïku, le temps profond, c'est le parfait. Et donc, un lien vivant entre le présent que je suis et le passé de mon souvenir, comme exactement cela existait dans les formes originelles du parfait français, n'est-ce pas, qui vient du bas latin. Je l'ai invité, c'est dit d'abord, abet invitatum. Et il faut toujours penser à la formule latine, dans la mesure où abere en latin a un sens beaucoup plus fort que l'auxiliaire avoir. C'est encore un verbe, c'est entre la pleine force sémantique et l'auxiliarité, abet. C'est-à-dire, il le tient ayant été invité. Abeo invitatum. Je le tiens, moi, dans mon présent, comme l'ayant autrefois invité. Alors la photo, quel serait le temps de la photo? Ben, je ne sais pas, je n'ose pas le dire, c'est à analyser plus tard. Je pense que la photo est largement parfaite, mais peut-être qu'il y a des photographies à l'aoriste. C'est à voir, j'en sais rien, sincèrement. Par exemple, les vignettes indiquent les vignettes du Larousse, par exemple. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de subjectivité là-dedans. Donc c'est plutôt à l'aoriste, enfin je ne sais pas, c'est à voir. Quel est le temps qui est mobilisé là? Ou un présent, mais qu'est-ce que ça veut dire un présent, hein? Ou une absence de temps? Est-ce que ça existe dans des langues, des absences de temps? Oui, l'infinitif. Voilà. Alors voilà, il faudrait essayer, à titre comme ça, je dirais à titre heuristique, pour essayer de trouver des choses, d'appliquer ou de confronter des catégories, non pas grammaticales, mais disons linguistiques, telles que Benveniste qui les a admirablement débrouillées, avec la photographie et avec le haïku. J'en viens maintenant à un autre groupe de réflexion, encore quelques instants, qui est le problème de la division du réel. Je vous ai cité ici deux haïkus, les 46 et 47, qui présentent tous les deux ce que j'appellerais une division très fine du réel. Le 46, pelant une poire, de tendres gouttes glissent au long du couteau. Et pour moi, c'est très beau, parce que la poire, fruit très français, fruit historiquement français, puisque pas dès le Moyen-Âge, dans les régimes alimentaires du Moyen-Âge, d'abord parce que c'est un fruit qui dure longtemps, pas, de juillet à presque début d'hiver, et ensuite, parce que, précisément, dans les régimes alimentaires du Moyen-Âge, les régimes luxueux, pas de la haute société, vous savez qu'il n'y avait, pour ainsi dire, pas de légumes. Il y avait du gibier, de la viande, mais pas de légumes. Et donc, la poire, disons, qui suivait immédiatement le service de viande, avait un peu, comme chez nous maintenant, la fonction de la salade. C'était le moment du rafraîchissement végétal, vitaminé, enfin, etc. Et c'est ce qui nous explique que la poire venait précisément avant le fromage. Et donc, avoir une conversation entre la poire et le fromage. Bon, alors la poire, qui est un fruit donc très important, donc je vois aussi pour les Japonais, mais ici, ce qu'il y a de très beau, c'est qu'elle n'est pas réduite. elle n'est pas réduite, au sens où elle n'est pas l'objet d'un procédé verbal de réduction. Elle est abstraite, ce qui est beaucoup plus beau. Elle n'est pas réduite, elle est abstraite à des gouttes sur un couteau. Je dirais, c'est une sorte de métonymie extrême. Une métonymie d'une audace extrême, où la poire, par métonymie, devient ces quelques gouttes sur un couteau. Quant au 47, jeu de mouche sur le bâton d'encre, printemps, rayon du soleil. Eh bien, il est évident que le notable, ce que j'appelle en latin le notandum, ce qui doit être noté, le notable, peut être divisé à l'infini. Pas les physiciens divisent la matière à l'infini, ou presque à l'infini. Du moins, je dirais, sans autre fini que celui des mots. Et encore, en combinant des mots, c'est-à-dire en assurant une production syntagmatique, je peux descendre en deçà de la mouche et même de la pâte, peut-être. Il s'ensuit que l'arrêt sur la notation, quand le haïku s'arrête au pâte, par exemple, l'arrêt sur la notation a quelque chose qui est toujours arbitraire et qui montre que le langage impose toujours sa loi à la nature. Et que le haïku, dans sa finesse extrême, il nous dit, eh bien, à un certain moment, dans cette descente de division de la notation, à un certain moment, j'ai posé le langage. J'ai arrêté le langage, je l'ai posé au sens de je l'ai déposé. J'ai déposé le langage quand je suis arrivé au bout. J'ai déposé le langage. Quand je suis arrivé aux pattes des mouches, j'ai déposé le langage. Alors, à quel moment de la descente dans l'infiniment subtil ai-je décidé de déposer le langage? C'est-à-dire, pourquoi noter ceci plutôt que cela? Eh bien, peut-être que la décision, ce qui produit à la lecture une sorte de petit satori mental, peut-être, la décision pour celui qui écrit d'arrêter à tel moment la division ou la subdivision du réel vient de ce que la métrique, dans le haïku, rencontre telle parcelle de la réalité, il fait un nœud et l'arrête. C'est-à-dire, c'est le moment où le réel est soulevé par la métrique 5-7-5. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la métrique est l'opérateur qui arrête la descente dans le réel. Et si c'est vrai, cela pourrait être la définition de la poésie. La poésie, ce serait en somme le langage du réel, en ce qu'il ne peut plus se diviser, ou ne s'intéresse pas à se diviser davantage. Ce n'est pas tellement un paradoxe, ou en tout cas c'est un paradoxe qui a des lettres de noblesse, puisque vous savez que pour Vico, grand italien du XVIIIe siècle, repris par les romantiques, Michelet, eh bien, Vico, le mythe du Vicien, c'est le mythe de l'antériorité du poétique, enfin, de la naturalité du poétique et donc de la réalité, en un sens, du poétique. Et je dirais que cela a été dit peut-être par Claudel. C'est-à-dire le soulèvement métrique, le satori d'une forme découverte qui crée le réel en arrêtant le découpage, ou si vous le préférez, qui formule, au sens fort du terme, Claudel l'a bien exprimé dans quelques métaphores très justes. Le moment donc où le langage s'arrête parce qu'il a réussi à formuler le réel. Claudel parle par exemple de la touche mère. Très beau, la touche, très mignon, mère. Ou le foyer lumineux qui commande autour de soi le concert des valeurs, des lignes, des volumes. et encore cette étincelle séminale qui met en branle toute la conception de l'être vivant. Tout ça, c'est la formule, n'est-ce pas? C'est du verbal qui fait tout ça. Et le poète seul a le secret de cet instant sacré où la piqûre essentielle, l'admirable définition du haïku, n'est-ce pas? La piqûre essentielle. Et cela, peut-être que Claudel n'aurait pas pu trouver cette métaphore si, comme vous le savez, il n'avait pas été très averti des choses de l'Orient et surtout des formes de l'art oriental. Donc, le poète seul a le secret de cet instant sacré où la piqûre essentielle vient soudain introduire, au travers d'un monde en nous suspendu de souvenirs, d'intentions et de pensées, la sollicitation d'une forme. Je continue encore un petit peu, et pour dire ceci, du point de vue syntaxique, le haïku est construit en général sur la coprésence, la présence ensemble de deux éléments. Enfin, j'emploie le mot coprésence parce que c'est un mot qui n'implique aucun lien causal ou même aucun lien logique. J'ai cité un exemple un jour. Le fait que le musicien américain John Cage avait toute une veine créative et une veine de réflexion parce qu'il avait vu que dans le dictionnaire, mushroom et music se suivaient. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler une coprésence. Eh bien, le haïku pratique cette coprésence de deux éléments et il pratique ce qu'on pourrait appeler une écriture parataxe, c'est l'écriture sans subordonnée, où il n'y a que des coordonnées, parataxe, ou encore le régime de l'ascendette, c'est-à-dire de la coupure de construction. Et à titre d'épreuve, je me permets de vous proposer le haïku 48, dans lequel je trouve que la coprésence est mal assurée. Si je me permets de faire des leçons au haïku ici. Dans l'ombre des frondaisons, les yeux du chat noir, dorés, féroces. Eh bien, je n'éprouve pas ici, je n'éprouve aucun satori, disons poétique. C'est une description, mais elle ne produit pas une sensation de haïku, parce que le premier terme, les frondaisons, d'abord est terne, banal, et surtout, il agit, tout au moins je le reçois ainsi, comme un pur complément circonstanciel, et donc pas comme une véritable parataxe. Et il ne produit pas en moi de déclic, la piqûre essentielle, le ravissement. Alors on pourrait le dire autrement, et dire que l'élément faible, les frondaisons, en fait, n'est qu'un accessoire de description. Or, au fond, le haïku n'est pas descriptif. Ou il n'est pas, il peut avoir l'air descriptif, mais sa finalité n'est pas la description. Il est au-delà de la description, il est dans la région de l'expérience mentale. C'est une photographie, justement. Ça n'est pas une peinture. Et dans la photographie, il y a un déclic. C'est pour ça qu'il y a une familiarité entre la photographie et le haïku. Et le petit haïku que je vous ai cité pourrait très bien être une description banale de roman traditionnel, n'est-ce pas? X, le personnage, s'avança dans la forêt et il vit luire dans le feuillage les yeux dorés et féroces d'un chat. Ça pourrait très bien être dans un roman très, très traditionnel. Alors, voici maintenant un autre haïku qui n'est pas dans le corpus, donc pas dans le recueil, et qui montre bien que si le haïku en reste à la description, c'est-à-dire si il n'accomplit pas la coprésence de deux éléments, c'est-à-dire la secousse, il n'accomplit pas bien son maître de haïku, même si, comme description, il est réussi. Ce haïku, c'est le suivant, je vous le dis. La voix du rossignol lisse, ronde, longue. La voix du rossignol, lisse, ronde, longue. Bien, je dirais, en subtilisant beaucoup, mais cela me permet de comprendre peut-être, c'est qu'il y a ici un cessat du langage, c'est-à-dire que la description est réussie. La description de la voix du rossignol est réussie, d'ailleurs, en se demandant si aujourd'hui on entend beaucoup des rossignols, si on sait vraiment ce que c'est, si ça n'est pas en train de passer à l'état d'objet purement littéraire. Donc il y a un cessat du langage, mais il n'y a pas un cessat mental, il n'y a pas un satori mental, une secousse, parce qu'il n'y a pas, il n'y a qu'un seul élément, il n'y a pas de co-présence. En revanche, me semble-t-il, voici deux bons haïkus, selon le critère que je propose, où la coprésence éclate, c'est le numéro 49. Être, au pluriel, des êtres, être sans mémoire, neige fraîche, écureuil bondissant. Être sans mémoire, neige fraîche, écureuil bondissant. J'aime bien ce haïku parce qu'il y a une liaison instantanée et cependant séparée, mais qui n'est pas de logique, entre le sans mémoire et la neige, avec un grain, un trait de légèreté. C'est comme un cocktail très subtil, très léger, donc pas un Alexandra, un crème. Plutôt de ces cocktails que on boit quelquefois dans un restaurant, pour lequel je ne ferai pas de publicité, qui sont du champagne avec un trait de quelque chose qu'on n'arrive pas, jamais à identifier, sauf si le patron vous le dit, et qui est de la guimauve. Et dans ce cocktail, la connotation exécrable du mot guimauve a complètement disparu, elle est puée. Je rappelle d'ailleurs que guimauve, strictement parlé, c'est une plante dont une des variétés que vous connaissez bien, c'est la rose trémière. Et quand on dit pâte de guimauve, ça n'a absolument aucun rapport avec la plante du guimauve. C'est-à-dire la pâte de guimauve qui a produit la mauvaise connotation très sucrée et fade du mot ne contient pas de guimauve. Voilà. Bon, alors c'est plutôt ça, n'est-ce pas, le haïku. Quant au numéro 50, un oiseau chanta. Tomba au sol une baie rouge, un oiseau chanta, tomba au sol une baie rouge. Eh bien, la parataxe, c'est-à-dire la coprésence, la parataxe joue ici sur deux actions, chanter et tomber. Et c'est une coprésence pure, car il n'y a aucun lien entre les deux actions. Voilà. Et donc, à ce moment-là, la condition même, le noème du haïku, semble réalisé. Enfin, pour finir, une coprésence moins rigoureuse, car elle juxtapose un état et un procès, c'est le haïku 51, très beau d'ailleurs. Convalescence, les yeux se fatiguèrent à contempler les roses. Alors, je dis que c'est moins rigoureux parce que il me semble qu'ici, on est un peu à une limite du haïku, et on va vers quelque chose qui est plus psychologique. Et qui est plus près d'un état d'âme que d'un satori, d'une petite secousse mentale. Et je dirais comme ça que c'est plus persan que japonais, et plus indo-européen qu'asiatique, et donc plus occidental, et plus, déjà plus romanesque. Bon, à samedi prochain, toujours sur le haïku.